Environ confort.
Les voitures électriques ont la cote. C'est un bon moment pour magasiner. Il y a les subventions du fédéral qui sont là et le meilleur endroit pour y aller, c'est d'aller voir les concessionnaires de la force Kia chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair. Ils ont d'ailleurs l'événement Merci Québec parce qu'en 2025, Kia est devenue la voiture, la marque automobile la plus vendue dans la région de Québec. Puis en ce moment, bien, vous obtenez jusqu'à 12 000 $ de rabais et subventions sur le Niro EV, jusqu'à 7 000 $ de subventions sur les tout nouveaux EV4 qui sont arrivés chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair. C'est le véhicule électrique le plus abordable au Canada. Il est au même prix que les véhicules à essence. Ça vaut la peine. Allez les voir, allez essayer le véhicule, allez poser vos questions pour savoir si ça répond vraiment à vos besoins. Vous allez avoir droit à un service hors pair. Allez faire votre tour chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair.
Chez La Tulipe.
15h07, je m'appelle Audrey Pinchot, Denis Gravel, qui est de retour demain, absent pour aujourd'hui. Fait qu'on s'accompagne jusqu'à 18h, Véronique Bergeron, qui est là également.
Bonjour.
Antonin Niacarini, qui remplace pour la journée.
Bonjour.
Toujours un plaisir. Et dans les prochaines minutes, on s'installe avec une collaboratrice régulière avec qui on aime bien ça jaser de toutes sortes d'affaires concernant les enfants, les adolescents, que ce soit le trouble de l'opposition, les parents qui sont trop dans la bienveillance. Et là, on va jaser aujourd'hui d'un article, en fait, à la base, qui est sorti dans le Journal de Montréal concernant le retour en force de la fessée pour corriger, élever un enfant. C'est un sujet qui est assez touché parce que on est une couple qui avons été élevés de temps en temps avec peut-être une claque aux fesses, tu sais.
Moi, ma mère a menacé beaucoup de sortir la cuillère de bois.
Elle l'a jamais fait.
La cuillère de bois n'a jamais été
utile. C'est-tu vrai? Puis t'as crayé pareil au fil du temps?
Absolument.
Ah ouais, hein?
Mais le voyons, Steam.
OK, t'es crédible.
Mais tu es crédule, là?
Ben oui.
Docile.
Un peu de tout ça. C'est quand même touché parce que des fois, tu sens qu'il y a des parents qui savent plus quoi faire.
Ouais.
J'ai encore vu la semaine passée, on allait à l'épicerie, un papa qui était tellement à bout de son petit gars qui hurlait puis qui arrêtait pas d'hurler que ça a été le serrage de bras en le sortant de l'épicerie puis c'était comme un loup, là.
Ah, puis ça, tu perds toujours dans cette circonstance-là.
Mais ben oui.
Soit tu passes pour le parent qui est donc ben raide avec son enfant, ce que les gens savent pas, c'est peut-être la 10e crise du bacon dans l'espace de 3 heures, ou encore tu passes pour le parent qui est beaucoup trop soft parce que t'as tellement peur d'être jugé que t'as aucune idée par quel bout de prendre l'enfant.
C'est ça, t'es-tu trop bienveillant? Est-ce que c'est parce que t'es pas discipliné? Tu disciplines mal? C'est moi un serrage de bras, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, je suis pas traumatisée, mais là en même temps je sais plus où on se place, tu sais.
Ben, tu sais en fait
deux salut Nancy,
bonjour.
Hey, c'est Nancy Doyon qui est coach familial.
Ben en fait, moi cet article là ce qu'il disait qui m'a fait vraiment réagir, c'est que chez la nouvelle génération de parents là, les plus jeunes parents, il y aurait une augmentation des parents qui seraient en faveur de l'utilisation de la fessée, l'étape et de la force.
On parle de 20%.
Oui, c'est quand même beaucoup. Ça représente quand même un parent sur 5, ça, 20%.
C'est parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Parce que, tu sais, là, il y a eu plusieurs gradations. Ouais. Tu as eu, mettons, mes parents qui, eux autres, à l'école, ont été élevés avec des coups de strap, des vrais.
La whip à maison.
La whip à maison. Puis, tu sais, c'était beaucoup plus brusque. Eux ont décidé d'y aller avec des menaces qu'ils n'exécutaient pas nécessairement, une fois de temps en temps, la force. Fait que nous, on a été élevés de manière très, très douce. Puis là, on arrive avec peut-être une génération qui n'a pas eu cette historique-là, puis qui ne connaît pas les impacts, puis plusieurs éléments. Là.
C'est le tarbinouche de phénomène du balancier.
Oui, exactement.
Qui est donc bien tannant. Tu sais, là, il n'y a pas si longtemps, j'étais assis ici pour parler des parents qui sont un peu trop, qui ont un peu trop glissé dans la bienveillance puis qui veulent tellement être bienveillants qu'ils pensent qu'il n'y a plus de limite à mettre puis qui parlent juste doucement à leur enfant. L'enfant est en train de leur cracher dans la face puis ils font « Oh, maman, aime pas ça quand tu fais ça! » Tu sais, s'il y a 2 ans, je veux bien, mais rendu à 10-12, peut-être pas. Tu sais, fait que je vous parlais de ça il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Et là, je fais « Mais ma foi, ces mêmes parents-là ou cette même génération-là, il y en a 1 sur 5 qui pense que, ben puisque je ne veux pas être là-dedans, puisque je ne veux pas être un parent qui fait des enfants rois, puisque je veux être un parent qui met des limites, ben on va donner des tapes. Mais voyons, ça fait toujours bien 30 ans que j'enseigne la fermeté bienveillante. Ça fait 30 ans que j'explique que tu sais, l'idée, c'est de mettre des règles fermes, des règles stables, de tenir son bout, d'avoir des attentes qui sont claires, d'avoir des conséquences logiques.
Je te pose une drôle de question, Nancy, là, mais à quel point ça a un impact sur l'adulte que tu deviens? Tu sais, puis j'écoute, je le sais pas.
Tu vois bien que j'en parle encore de la cuillère de bois.
Non, mais tu sais, moi, ma mère m'a souvent dit, hey, vous êtes chanceux, puis les générations actuelles le sont, parce que nous autres, la WIP, elle existait, là, tu sais. Puis, fait qu'à quel point ça change de quoi dans le développement à long terme?
Bien, en fait, tu sais, c'est sûr que l'enfant qui a reçu deux tapes ses fesses dans sa prime enfance.
Là, on parle pas d'une fessée, là.
Non, non, tu sais, puis que l'enfant a reçu beaucoup d'amour à travers, puis là, le parent m'a amené, l'a échappé, où il a crié, hurlé, puis ma foi, il s'est excusé, tu sais. Ça va pas forcément amener beaucoup d'impact. Mais d'emblée, c'est même une seule tape, c'est fait. C'est quand même une tape de trop.
Je m'en rappelle, en tout cas. Moi, je l'ai juste eu une.
Même affaire.
Moi aussi. Une tape. Je m'en rappelle. J'avais 2 ans, puis je m'en rappelle.
Ah, mais moi aussi, ben, j'étais plus vieille que ça. J'avais 8 ans, mais j'étais tellement insultée. J'étais tellement désemparée. Je me rappelle
c'est humiliant,
du sentiment.
Là. Je me rappelle
c'était
pourquoi,
même. Moi aussi.
C'était même pas de ma faute. C'était la faute de la petite Christine gardienne Émilie qui avait pas fait sa job comme du monde, tu sais, c'est moi qui m'en
voulais. C'est la faute à ma sœur. Mais je me souviens à quel point oui, c'était humiliant, mais je me souviens à l'époque comment j'avais perdu tous mes repères, je me disais ben voyons, ma mère qui m'aime puis qui est douce, puis elle me frappe, j'étais à ça mes raides, puis c'est pas vrai, mon père m'a giflé à l'adolescence une fois. Fait que tu sais je puis ça aussi ça m'avait insulté noir, je voulais fuguer. Mmh. Fait que tu sais et là je bon, okay, on n'est pas nécessairement traumatisé de ça, parce qu'à travers, on a reçu de l'amour, mais d'emblée, on s'entend-tu que c'est pas une bonne méthode? Comment non. Je peux enseigner à des enfants le respect de soi et des autres en leur faisant mal?
C'est incohérent. Il y a un manque de cohérence.
Ben,
puis,
oui.
Tu sais, tu le dis, mettons, d'une fois, tu as perdu patience, puis le bras était un peu serré.
Moi,
ça
le
va.
Bras, je vois ça comme étant, hey, ramène-moi ton attention.
Oui, c'est ça, mais ça vise pas à faire mal.
Plus qu'une. Plus
ouais, mais
qu'une
c'est
punition.
Le prendre par le bras, mais pas le serrer par le bras jusqu'à temps que ça fasse mal.
Non, plus,
ben
non,
mais tu sais. En fait, l'idée, c'est qu'on n'utilise pas la douleur pour se faire
obéir. Et voilà. Mmh.
Il y a une différence entre la fermeté et la douleur.
Ben oui.
Mettons, là. J'ai souvent vu des affaires sur Internet. Puis même ma mère, elle a une garderie pendant 25 ans. Fait que, tu sais, des parents dans le cadre de porte avec leur petit, j'en ai vu passer en 6 boules. Puis j'ai souvent remarqué ou vu chez ses parents, des fois, qu'on n'utilise pas nécessairement la force, mais si ton enfant te frappe d'en face, tu fais la même affaire. Tu sais, pour
oui,
apprendre les.
C'est ça. Mon enfant m'a mordu, moi, leur mort.
Oui, genre, tu vois-tu ce que ça fait? Puis je trouve. Ben, moi, ça m'a toujours fait rire. Là. Je sais pas que c'est correct, mais. Tu sais, je te montre ce que tu fais pour que tu comprennes que ça, c'est-tu.
En fait, le cerveau de l'enfant n'est pas capable de downloader okay. ça. Surtout okay. chez les tout petits, l'enfant, admettons, qui mord, puis que je dis, ben, je vais te montrer ce que ça fait de mordre, puis je le mords. L'enfant, son cerveau est pas assez mature pour être capable de dire, ah, oh, c'est
fait,
ça,
ouais.
la douleur que je ressens, c'est la douleur que l'autre ressent dans ce que là, je vais arrêter et je vais me trouver okay, une méthode
non, ça marche pas de même.
Ben non, ça marche pas de
même. Puis parlant de cause à effet, soyons honnêtes, là, les gestes de violence, souvent, c'est pas une intervention qui est réfléchie.
Non.
C'est toi qui as perdu les pédales.
Mmh. Exact.
C'est pas lié toujours vraiment à la gravité du comportement
exact.
De l'enfant.
Mmh.
J'ai eu un chum qui avait eu des parents qui étaient violents. Puis il disait, moi, juste la manière dont mon père fermait la porte en rentrant de la job, je le savais si on allait se faire frapper ou pas. Ça n'avait
oui,
même pas okay, rapport
pas
avec
exact.
Notre comportement. Donc, ça ne peut pas être efficace.
C'est ça. Puis tu sais, il y a certains parents qui vont se rendre là. En fait, moi, je trouve qu'il y a comme deux sortes de parents qui vont utiliser la force physique ou la peur. Parce que, tu sais, mettons, au-delà là, de frapper, la discipline qui est basée sur la peur, là, tu sais, je crie fort, je te serre un bras, je te menace, tu sais, une discipline qui est agressive, ben tu as des parents qui font ça parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement pour se faire écouter, puis qui ont l'impression que si je ne fais pas peur à mes enfants ou si je ne leur donne pas une tape, je les laisse faire n'importe quoi, fait qu'ils manquent de moyens. Puis tu as l'autre qui, effectivement, se sert malheureusement un peu de son enfant comme un punching bag. Fait que ou bien c'est un parent qui décharge son propre stress de la journée, ou bien c'est un parent qui peut justement aussi avoir des problèmes d'alcool, consommation,
un parent
puis à un moment donné.
Qui n'aurait peut-être pas dû avoir d'enfant, finalement.
Ou encore, le parent qui veut tellement être dans la bienveillance, qui adore ses enfants, mais qui veut ressembler à maman de caillou, là, et là, qui tolère, qui explique, qui tolère, qui explique, qui tolère, qui explique, puis là, à un moment donné, achète la paix, essaie de. Puis à un moment donné, ce parent-là en peut plus, s'épuise, et paf, explose. Et là, finalement, ça devient du mom rage, ou tu sais, de la rage parentale. Et là, ça se traduit par tout plein d'agressivité.
On manque de repères, de ce que je comprends, les jeunes parents. Là. C'est un manque. Fait, comment tu ramènes ça à l'équilibre au centre? Là? Comment tu réagis quand ton enfant te manque de respect? T'sais, moi, je te l'ai dit souvent, j'ai l'impression, des fois, je t'écoute et je me dis, je vais être une mauvaise mère. Parce que moi, si mon ado de 11-12 ans m'insulte, tu comprends, ou insulte son père, ou sa soeur, son frère, peu importe, j'ai l'impression que je parle les pédales. Moi, j'ai été élevée dans un cadre où le respect était la priorité. T'sais.
Et le respect peut être la priorité chez toi, sans que tu manques de respect à ton enfant pour lui enseigner le respect. Fait que, tu sais, écoute, pour les gens qui disent, ah, ouais, c'est vrai, moi, je suis un peu comme ça, suivez-moi, SOS Nancy, j'en ai 1000 des trucs, allez voir ma chaîne YouTube. J'ai 100 vidéos de méthodes alternatives autres que les claques, puis autres que de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Il y en a des tonnes de stratégies. Mais maintenant, après ça, ça prend des règles claires, appliquées avec rigueur et constance, des conséquences logiques, puis des fois, la conséquence n'est pas tout à fait logique, mais au moins qui est appliquée avec rigueur et constance.
Qu'est-ce qui est acceptable? Tu sais, mettons, là, moi, je suis un parent là, qui, justement, des fois, là, qu'est-ce qui est acceptable? Bon, là, on a dit serrage de bras, peut-être pas, mais des fois, saisir, c'est une chose. Le ton, tu le montres jusqu'où? Qu'est-ce qui est acceptable en frais
ben
de
moi, d'emblée,
discipline?
Saisir, je suis pas d'accord.
Okay.
Aller chercher l'attention, mettre à hauteur de l'enfant ou de dire, hey, tu sais, des fois, c'est même petit brin. Là, tu me regardes, ça suffit. Là, c'est correct, tu sais, que même que je le vire de bord un peu, que je fais, non, attends, c'est pas, on va se parler, que je l'escorte en lui tenant le dos et la main pour l'amener dans un endroit plus calme, pas de problème.
Le ballon de football, ça marche-tu? Ma mère aime certainement.
Ben, moi, j'appelle ça la poche.
Ça dans saisir, moi.
Ben, moi, j'appelle ça la poche de patates hurlantes, tu sais. Ouais. Moi, je suis sortie avec une poche de patates hurlantes des centres d'achat puis du McDo avec ma fille quand elle avait 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Ça, ça marche.
Mais à 5 ans, ben là, tu sais, tu peux plus t'en faire ça, sinon tu vas y faire mal. Tu sais, dès que tu utilises quelque chose que volontairement tu fais mal à ton enfant ou volontairement tu essaies d'y faire peur ou volontairement tu essaies de prendre le pouvoir dessus, pour
d'où
moi,
l'intervention physique que tu dis que ça n'a pas sa place.
Intervention physique, mais aussi, tu sais, une intervention rageuse. Okay. Là, je commence à t'écœurer, puis tu vas voir, tu vas le regretter, puis moi, si tu continues de même, tu garantis...
Et qu'on l'entend en plus. Ben, oui, la cabane à sucre, en fait, semaine passée, m'a dit que ça, je l'ai entendu en tabarnouche.
Ben,
là.
C'est ça. Hey, moi, j'ai parlé avec... J'étais intervenu il y a quelques années avec un papa. Le papa, quand il se fâchait après ses enfants, là, il serrait les mâchoires, là, puis là, il sacrait à travers ses
la
mâchoires.
La veine du front.
La veine du front, les yeux exorbités, puis il pouvait des fois le serrer les poings, puis il serrait les poings super raides, puis il dit « T'es chanceux, je te frappe pas. » Mais pour moi, c'est de la violence.
C'est de la violence, ça.
En fait, moi, je me dis, tout ce qui est inacceptable dans un couple est inacceptable dans mon rôle parental. Moi, là, si je m'accroche solidement avec mon chum, là, ça se peut que je monte le ton, puis que je m'excuse après d'avoir monté le ton. Mais si j'y hurle à 2 pouces du nez, on s'entend-tu que c'est de la violence conjugale?
Ben
oui.
Si je donne un coup de poing dans le mur à côté de la face de quelqu'un,
c'est de la violence.
C'est de la violence. Ben
c'est
oui.
Ça. Si mon chum, parce que je veux pas partir du centre d'achat, me ramasse par le bras, puis me serre le bras, puis me sort de force, c'est de la violence conjugale, on s'entend là-dessus?
Ouais.
Pourquoi est-ce que ce serait correct quand je le fais avec mon enfant?
C'est un bon truc, je trouve.
Mais tu sais, il veut pas sortir. D'accord, je vais dire, hey, on sort. Ça se peut que je le prenne par la main, que je l'accompagne en y mettant la main dans le dos.
Ou la poche de patate hurlante.
Ou la poche de patate hurlante si c'est un petit.
En dernier recours. Avec...
C'est sûr qu'à 13 ans, c'est plus dur. Là.
C'est ça. Avec les plus grands, ça peut être, écoute, là, on a 5 minutes pour sortir, sinon il risque d'y avoir une conséquence. Puis, ben écoute, ça peut être temps perdu, temps repris. Ça peut être telle activité qu'on avait prévue, ben oublie ça, on la fera pas parce que là, t'as pas respecté ce que je t'ai demandé. T'sais, ça, oui. Maintenant, tout ce qui est utilisation de la peur, ben là, écoute, on installe un rapport de force, puis c'est parce que c'est un piège à ours. Les parents qui utilisent la force et la peur, souvent, sont obéis.
Fait qu'ils pensent qu'ils ont une autorité.
Ben oui.
Qu'ils
disent, ben moi, ça marche. Fait que là, c'est souvent des papas qui me disent, moi, là, moi, j'en ai pas de problème. C'est elle qui est trop molle. Moi, là, mon gars, il m'écoute. Moi, je répète rien qu'une fois. Oui, parce qu'il a peur de toi. Alors, ce que tu es en train
Alors
d'enseigner...
Alors que peur et autorité, c'est pas la même chose pour tout.
Ben non. Et ce que tu es en train d'enseigner à ton jeune, c'est tu collabores avec quelqu'un si et seulement si tu as peur de lui ou elle. Donc, si ta prof de mathématiques en deuxième année du primaire, elle te fait pas peur, ben t'as pas besoin de l'écouter, tu peux niaiser elle.
Mais c'est tough pour vrai, Nancy, parce que là, je suis en train de me dire dans ma tête, OK, mettons qu'à la place, j'y vais avec des conséquences. Ben là, qu'est-ce qui rentre dans menace? Ben, fais pas ça, mais t'enlever ton téléphone.
Une menace de conséquence, c'est pas comme une menace de frapper quelqu'un, mettons.
Ben, c'est déjà moins pire, mais en même temps, Ce que je dis souvent, c'est notre job de parent, c'est pas que l'enfant nous écoute ici maintenant, puis c'est souvent ça. On veut juste que l'enfant nous obéisse et se soumette à notre autorité ici maintenant. Or, moi, je trouve que la job du parent majoritaire, c'est de dire à l'enfant, ben écoute, si tu fais ça, il arrive ça. Si tu fais ça, il arrive ça. Quand tu collabores, on va avoir du fun ensemble, puis ça va être plaisant. Quand tu collabores pas, ben il va y avoir des inconvénients au fait que tu collabores pas. Choisis, décide et assume. Donc, des fois, on va laisser l'enfant faire une bêtise et assumer la conséquence naturelle ou assumer la conséquence logique pour qu'il apprenne de ses propres erreurs plutôt que de juste « j'apprends à obéir à l'adulte de qui j'ai peur ».
Ouais.
Mais tu sais, il y a des fois où on n'a pas le choix, là, on s'entend là-dessus. Là. Il y a des fois où c'est correct qu'on lève le ton, puis il y a des fois où on est obligé d'escorter un enfant, par exemple, en retrait à sa chambre. Ça se peut des fois qu'on soit obligé d'intervenir avec un petit peu plus de force. Là,
ça se peut-tu que la pression extérieure, des fois, nous mène à surréagir aussi? Ben... Je te dis, j'ai entendu ça beaucoup à Cabane à sucre en fin de semaine. C'est parce que c'était crowded, il y a du monde partout, il y a des parents partout qui écoutent comment les autres gèrent leurs enfants. Ben puis j'ai comme le sentiment que des fois, tu as des parents qui sentent une pression de se faire respecter puis de bien encadrer. Puis, puis c'est là que ça dérape.
Ben oui, l'espèce d'impression que si je suis un bon parent, j'ai un enfant qui va toujours être obéissant, tranquille et docile.
Mais pendant ça, tu te fais dire qu'il est poli.
Ben c'est ça. Ben, tu te fais dire qu'il est bien élevé.
Ouais.
Fait que donc, si mon enfant, quand il est poli, docile, il est bien élevé, ça veut dire que l'autre qui court partout puis m'écoute pas, il est mal élevé, mais c'est moi qui l'élève. Fait que je vais trouver une façon. Mais c'est vraiment l'espèce de pression que les parents ont de dire, ben faut pour être un bon parent, il faut que mon enfant m'écoute ici, maintenant. Fait que là, c'est là qu'on tombe vite dans de l'escalade.
J'ai envie, Nancy, en terminant, de te faire entendre quelque chose parce que il y a beaucoup de gens sur les internets qui se donnent beaucoup de trucs hein, quand ils ne savent plus comment gérer une situation. Et il y a un trend en ce moment.
C'est ça, tu as des trucs puis tu as des trends.
Oui, puis là, écoute.
Là, c'est un trend.
C'est vraiment cocasse. Pour vrai, c'est drôle, mais tu sais.
C'est la gestion de la crise du bacon.
Ouais.
Mais tu vas voir, je pense que tu vas être d'accord, il n'y a aucune intervention physique, il n'y a pas de menace, rien pantoute.
Est-ce que ça aide vraiment, par exemple, à l'éducation, genre de t'entendre?
Around TikTok right now, we're mid-tantrum. Parents just go, where's Jessica? Or yell a random name, and it works. Their toddler stops tantruming in their tracks. As a child therapist, let me tell you why. It's a shock to the system. Their little brain goes, wait, what? They stop the emotional loop that they're in. Which, by the way, is a very toddler.
Je vais baisser un peu en attendant. Pour expliquer, si vous ne comprenez pas l'anglais, là. En gros, le trend, c'est que, mettons, tu as petit Jacob, 3 ans, qui est en énorme crise. Okay?
OK.
Et là, au lieu d'essayer de gérer petit Jacob, la maman, mettons, qui a une grosse journée, qui est fatiguée, va se mettre à dire « Jessica! Jessica, t'es où, Jessica? Jessica! » Puis là, l'enfant est perturbé, ben arrête, parce qu'il est comme, voyons, Jessica, c'est qui, c'est Jessica? Il se met à chercher, arrête de pleurer parce qu'il comprend pas pantoute. Puis la mère, souvent, est comme, Jacob, t'as-tu vu Jessica? T'sais? Puis ça arrête un peu le principe de crier. Moi, je trouve ça charmant, je trouve ça tellement drôle. Là.
Je viens de comprendre pourquoi aujourd'hui même, il y a un parent qui m'a écrit ça dans un live que je faisais dans ma communauté. Puis on parlait justement de gestion de nos émotions. Puis elle disait, moi, tu sais, quand je t'aboute, je crie Jessica. Je dis, OK, pourquoi voilà. Tu comprends?
Bien, ça vient probablement de là, mais je te dis, en français, en anglais, partout.
Il y en a qui ont essayé d'autres noms, ça fonctionnerait quand même.
Écoute, mais je trouve ça.
On pourrait essayer au Québec
drôle.
De mettre la trend Nancy.
Ah oui,
Nancy?
C'est ça.
Nancy!
Mais ça fait pas de mal à personne, ce genre d'affaire-là. C'est
ben
un truc
non.
Que tu peux essayer.
Ben,
ouais.
En fait, ben
je sais
oui.
Pas, mais il y a l'actrice Jessica Biel qui sort avec Justin Timberlake qui a fait une vidéo en disant « La plupart de ces enfants-là ont l'air traumatisés. Je pense que vous êtes en train de lui faire peur de toutes les Jessica possibles. »
Y a-t-il un fantôme dans la maison?
Ben, c'est carrément ça. Et semble-t-il que les enfants s'habituent, puis passé un certain âge, leur réaction, c'est pas d'arrêter, c'est de faire... C'est qui, Jessica?
C'est comme... Ouais.
C'est
mais par contre, l'idée de faire diversion, parfois avec les tout-petits, c'est vrai que ça
c'est
marche.
Pas mauvais.
Mais à 16 ans, ça marche moins
ouais,
bien.
C'est ça l'affaire, j'allais dire. Ça
à 16 ans,
il te
répond, « It's cute! »
Hey boy, c'est
mais j'avais vu aussi des parents qui mettaient de la crème fouettée dans la bouche de leurs enfants. Je me disais, là, on va
ouais,
associer
non.
Crise avec manger du sucré. Là, j'étais pas sûre
la tranche
bon.
De fromage dans le
non,
front. Il y a
la tranche de fromage, ouais.
C'est sûr que, tu sais, de faire un peu de détournement d'attention avec un tout-petit qui fait une crisouille, j'ai pas de problème. Mais tu sais, en vieillissant, il faut leur apprendre à traverser les émotions. Fait que, tu sais, si je passe passe mon temps, parce que c'est vrai, la diversion, là, c'est une technique que je vois beaucoup de parents faire. L'enfant est en crise, il est envahi par les émotions. Le parent fait le clown. Oh, regarde, là, l'oiseau là-bas, ou le chatouille. Tout ça, je fais comme, ew. Je m'imagine, moi, être viré à l'envers, puis que mon chum se met à me chatouiller, puis à faire des blagues. Ou encore, j'ai eu des parents qui me disaient, ah, ben moi, quand mon enfant fait une crise, je me jette à terre, puis je crie plus fort que lui.
J'ai vu beaucoup ça, l'imitation.
Ben oui. Je pense que ça marche, là.
Ben, écoute, ça marche sur le coup, parce que l'enfant fait comme, mais de qu'est-ce? Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, tu comprends qu'on vient de ridiculiser. Tu sais, si moi, je me mets à pleurer, puis que mon chum se met à broyer plus fort à côté de moi,
ou même avec un tout petit, il peut penser que t'as vraiment de la peine. Puis il dit, moi, quand j'ai de la peine, ça fait de la peine à ma... Tu sais, je sais pas, il me semble que c'est confusant, là.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Fait que c'est drôle sur le coup, mais c'est pas terrible.
Ce que je sais, Nancy, c'est que dans quelques années, t'auras une cliente fidèle. Après moi, je vais avoir le téléphone proche assez souvent, merci. Sans blague, je trouve ça toujours super intéressant, mais j'arrive à comprendre des jeunes parents, des fois, qui savent plus comment faire ou qui savent pas comment se prendre. Tu sais, il y a pas de livre, hein, puis de ce que je comprends, tes parents pour la première fois, généralement.
C'est pas vrai qu'il y a pas de livre, je n'ai écrit 5.
Oui, il y a beaucoup de livres, mais tu sais, tous les livres disent différents dépendamment. Quoique, normalement, tes conseils sont pas pires. Nancy Doyon, coach familial SOS Nancy, vous avez ces réseaux sociaux, et là, tu me disais tantôt que
oui,
y a des
ateliers gratuits qui s'en viennent. 3 ateliers gratuits le 20, le 23, le 26 avril sur l'opposition, les troubles
Génial.
De comportement.
Fait que la personne qui nous écrit en disant « Je sais pas quoi faire avec mon enfant de 8 ans qui est vraiment têtu puis qui fait pas ce qu'on lui demande. »
C'est parfait. C'est qui vient de voir les ateliers, c'est gratuit. Ça
se donne ça en entreprise, ça, Nancy?
Ouais,
j'ai
ben,
des noms.
Merci beaucoup, Nancy Doyon.
Hey,
tu reviens quand tu veux. Au retour de la pause, on va jaser actualité financière avec Alex Leblond. Gravel.
Petite question. Comment votre journée s'enligne sans votre adjointe ou votre adjoint administratif? Est-ce que ce sera des problèmes de café, de réunions oubliées, de dossiers introuvables? Souvent, les adjoints, c'est les gauleurs, puis on va se le dire, c'est souvent eux autres qui vont sauver vos journées. Justement, l'APSAC, l'Association du personnel de soutien administratif du Québec, fête ses 40 ans et invite les employeurs à investir dans ces super-héros du bureau. Inscrivez-les au congrès annuel de 3 jours. Il y a des conférences, des ateliers, du réseautage et même un cocktail VIP. Puis en prime, il y a plus de 120 heures de formation gratuite en ligne. C'est même offert au patron en plus de ça. APSAC.ca, parce qu'une bonne adjointe, ça vaut de l'or.
Gravel dans le retour, présenté par...
On est là, on vous a pas oublié. Vous êtes à Boulevard 102, un Gravel en retour qui se poursuit jusqu'à 18h. Si vous venez de vous connecter, vous êtes un peu perdu, vous dites, me semble, à voix un peu plus aiguë que normalement. Mais Denis Gravel n'est pas là aujourd'hui. Il sera de retour demain. Antonine Iacarini qui est avec moi. Véro Bergeron également. Je m'appelle Audrey Pinchot. Quoi que ce soit, 88-971-1021. Si vous êtes sur les routes en ce moment, ça commence à ralentir. Capitale, direction Est, entre autres, à la hauteur de Robert Bourassa, on le sent déjà. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Wilfrid Amélie et la capitale, un certain ralentissement à prévoir également. Je vous dirais qu'Henri IV Sud, à partir de Versant Nord, ça ralentit jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Et pour ce qui est de la 20, c'est direction ouest que ça se passe à la hauteur de Chemin des Îles. Peut-être prendre le temps de vous rappeler aussi, un peu comme la nuit dernière, là, ce soir à partir de 21h jusqu'à 5h30 demain matin, pont de Québec fermé dans les deux directions dû à des travaux. Fait que vous comprendrez que le détour se fait par le pont Pierre-Laporte. Pas l'impression que ça va créer énormément de ralentissement étant donné que c'est à partir de 21h. Le pire était surtout hier. Quoique, si jamais, 88-971-1021. Présentement, à l'extérieur, on est à 8 degrés. Cette alternance soleil-nuage, on est pas mal plus dans le nuage, je vais vous dire. Puis, on a eu une super belle fin de semaine, mais on paye cette semaine. Parce que dans les prochains jours, on est autour de 10 en général. Tu sais, demain, on est à 7 degrés, possibilité d'averse à 30 %. Pour ce qui est de jeudi, 14, c'est de la pluie. Vendredi, 13, nuageux, possibilité de pluie. Samedi, on est à 11, nuageux. Dimanche, la pluie à 10. Puis il y a même des possibilités d'averse de neige lundi prochain, selon Environnement Canada. Je préfère rester dans le déni, mais je vous avertis quand même. Donc, on va profiter, j'ai envie de dire, du fait qu'il ne pleut pas, mais ce sera nuageux pour la semaine. Dans les prochaines minutes, on va faire un tour d'actualité financière avec nul autre qu'Alex Leblond, qui est planificateur financier. Puis c'est des sujets qui sont somme toute très intéressants. J'ai l'impression qu'on va parler à nos sportifs, entre autres, les gens qui aiment le sport un peu, avant de parler aux gens en couple. Alex, premièrement, salut.
Salut.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que tu avais un après-midi à s'occuper. Les séries. On s'en va en séries. C'est, ouais. C'est bon pour nous,
parce que là,
ça,
je parle aux sportifs, mais je ne suis pas sportive et j'adore celui des séries de hockey.
Oui, à ceux qui aiment le sport, j'en
les amateurs de sport.
Je ne suis pas très sportive non plus, puis ça m'arrive de m'asseoir devant TV. C'est bon, j'imagine, ça, pour, mettons, les commerces locaux, entre autres, dans le coin de Montréal. Quand le Canadien est en série, on s'énerve, on va dans les restos. À quel point?
Ben, pas juste à Montréal. Hein. Parce qu'hier, il y a des données de Moneris qui sont sorties. Okay? Moneris, c'est une business de solutions de paiement. Là. Fait que, tu sais, tous les terminaux là, auxquels où on passe notre carte, là, ben, eux autres, ils vendent ça. Fait qu'il y a des restos qui ont ça, il y a des bars qui ont ça. Puis ça leur donne un paquet de données. Puis à chaque année, ils sortent ça, que ce soit Montréal, Ottawa, Edmonton, les villes où il y a des équipes de la Ligue nationale. Ben, ils sont capables de dire, OK, ben, quand il y a un match, voici ce qui se passe dans un rayon de, mettons, 1 km
les variations
de
l'aréna,
5 km de l'aréna, voici ce qui se passe dans la ville en cas de victoire, en cas de défaite. Ils ont accès à toutes les données de dépenses, eux autres. Puis ils sont sortis hier en disant, ouais, là, pour les équipes qui vont être en série cette année, donc Montréal, Ottawa, Edmonton, historiquement, ça a été des bonnes affaires. Tu vois, l'an passé, là, en série, le Canadien, les dépenses resto ont bondi de 41% au match numéro 3, ça c'est quand il était à Montréal, puis 45% au match numéro 4. Ottawa, c'est un petit peu la même chose, mais l'aréna à Ottawa, il est dans le milieu de nulle part. Là. Fait que c'est
à Canada, là, la seule affaire que tu as de proche, c'est des athlètes pour aller magasiner. C'est un peu triste.
Fait que ça n'a pas le même impact.
Non, ça n'a pas le même impact. T'sais, Montréal, ce qui est bon, c'est que l'aréna, tu pourrais pas être plus au centre que ça. Tu es au centre du centre. En finale, en 2021, là, ça, c'est fou. Puis en plus, 2021, rappelez-vous, c'était
tout était fermé.
Le COVID, techniquement. Là.
Ah, puis il n'y avait pas changé les règles, puis on s'était rendu comme super loin, puis ça allait full bien.
Oui. Ben oui, on s'est rendu en finale.
Il y avait eu la bulle canadienne contre la bulle américaine.
Puis, supposément qu'il y avait 5000 personnes dans les estrades, mais mettons qu'on avait le 5000 relax. Là. 160% la hausse de dépenses dans les alentours du Centre Bell, 245% partout à Montréal, puis partout au Québec, là, quand tu prends ces chiffres-là, c'était plus 137%.
C'est fou, hein? Oui, parce que là, tu as les cages, tous les restaurants, les bars sportifs qui offrent la game, mettons, qui se ramassent plein. Là.
Exactement. Fait que, tu sais, clairement, le fait que le Canadien, si on prend notre exemple ici au Québec, soit en série, pour les restos, pour les bars, c'est massif. Là. Il y en a qui vont faire ou ne pas faire leur année juste en fonction des performances du Canadien. Puis des fois, les gens se demandent, tu sais, à Québec, on avait parlé des Kings, mais un paquet d'affaires. Tu sais, quand le gouvernement met
quand le gouvernement s'en mêle, là.
Bien, les gens se posent la question, des fois, pourquoi le gouvernement fait ça? Bien, entre autres, puis je te dis pas que c'est une bonne chose, mais un des thinking derrière, que ce soit au Québec ou ailleurs, là, quand on, parce que les arénas là, sont construits encore, là, grosso modo, à peu près à 73% par les gouvernements. La question à savoir pourquoi vous faites ça, bien, c'est entre autres ça. La thèse de certains gouvernements, c'est de dire hey, si on construit cette aréna-là, si on participe au fait
que. Ça fait rouler l'économie.
Ça fait rouler l'économie. Rendu là, les propriétaires sont bons pour gonfler les chiffres des fois, là, mais ça reste qu'il y a une réalité là-dedans.
Fait que ça améliore vraiment l'économie locale au sens large.
Bien, là où les études ne s'entendent pas, là, c'est que, justement, toutes les dépenses, là, mettons, le Canadien est en série, le Canadien est en finale, ça dépense plus dans les alentours du Centre Bell, ça dépense plus, justement, dans les cages, dans les Boston Pizza.
Bien, tous les restaurants sportifs, c'est difficile de se trouver des places, là.
La question qu'on se demande, c'est sûr que nous autres, si nous quatre autour de la table, on a une business de resto sportif, c'est sûr que c'est bon pour nous autres. Par contre, d'un point de vue global, il y a quelque chose en économie qui s'appelle l'effet de substitution. Le 122$ que je vais flamber à cage là, pendant la game du Canadien... Là,
tu le dépenseras pas ailleurs.
Ben, je le dépenserai pas ailleurs, mais je l'aurais... Si c'était pas du Canadien, je l'aurais flambé quelque part dans l'économie locale quand même. C'est pas vrai que je prends un 122$ dans mon CELI puis que je m'en vais le brûler à cage.
Mais tu le concentres à un endroit où tu l'aurais peut-être pas concentré autrement.
Oui, mais ça, c'est bon pour cet endroit-là. Reste que d'un point de vue économie au sens large, le 122$, il aurait circulé.
Fait
que
ça ne crée pas de la richesse au Québec.
Oui, c'est ça.
Là.
Ça fait pas faire plus d'argent. C'est plus que c'est déplacé.
Bien, ça fait aussi faire de l'argent, parce que tu le vois, là, quand il y a des séries de hockey, tu vas aller à l'épicerie, puis ce qu'on va te mettre en valeur, là, ça va être les chips, ça va être les ailes de poulet, les filets, les ci, les ça. Fait que c'est comme si on prenait certains pans de notre consommation puis qu'on les favorisait avec nos défenses.
Ça n'a aucun sens. Mais justement, au Québec, est-ce que c'est un phénomène, mettons, qui est limité aux Canadiens? Parce que là, on parle beaucoup de ça, mais j'ai le sentiment que de plus en plus, on s'intéresse à d'autres sports aussi. Là.
Oui, puis tu vois, moi, je pensais que c'était très canadien-centrique, là, parce que je me rappelle, il y a une couple d'années, là, moi, je suis souvent... Là, c'était pas à cash, fois ça, soit là, mais moi, mon social, c'est ça. On va voir des games, on va voir les séries, puis c'est ça qu'on fait. Puis il y avait une série, la première ronde, il y a une couple d'années, puis on était là, on regardait, c'était New York-Pittsburgh, c'était l'année que Louis Domingue a joué, là, pour les connaisseurs. Non.
Bruit de criquet. Ouais, bon. C'est ça, là, t'as pas la bonne crowd pour te mettre à aller anyway, trop loin dans le hockey.
C'est cette année-là, puis, tu sais, c'était pas le Canadien, naturellement, puis on s'était fait sortir du resto, là. Pas parce qu'on beuglait, c'est juste que le resto fermait, là.
Puis vous étiez les seuls qui restaient là.
C'était comme, il y a une game, c'est les séries, mais vu que c'était pas le Canadien, ça intéressait personne.
À l'inverse, des fois, il y a des buzz. Quand les Raptors s'étaient rendus très, très loin au basket, d'ailleurs, ils sont qualifiés pour les séries, c'était We the North. On avait fait des rassemblements à Québec. Il y avait des gens dehors, dans des cours. Il y avait des bars sportifs qui affichaient complet. Mais ça avait été une espèce de buzz national qui avait collé.
Mais tu vois, le Jean Bédard de la Cage, lui dit qu'auparavant, c'était très Canadien-centrique. Mais là, de plus en plus, depuis quelques années, on élargit nos horizons. Justement, les Raptors, c'en est un bon exemple. Les Jays, l'an passé, c'en est un bon exemple aussi. On est moins estiqué sur les Canadiens qu'on était.
Mais on aime ça, se créer des événements. Absolument. Pour se rassembler.
Et on l'a fait pendant les Olympiques le matin.
Oui, toute excuse est bonne. Ça fait profiter beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de commerce, évidemment. Tout ça, tu nous as parlé de chiffres, mais il y en a qui gagnent plus que d'autres dans tout ça. Là. Jeff Molson, entre autres, en profite.
Ben, c'est sûr, parce que rappelez-vous que les joueurs, tu sais, mettons, Nick Suzuki, il fait quelque chose, je pense, c'est 7,8 millions par année en moyenne. Noah Dobson, il fait 9,5 millions par année en moyenne. Les gars sont juste payés en saison régulière.
Ils ne sont pas payés en série.
À partir des séries, c'est du bénévolat. Fait que pense à ça deux minutes.
Ben là,
là,
du bénévolat.
Ben, je ne vous ai pas payé.
Non, mais c'est parce que ça va leur apporter au bout du compte. Ils vont avoir plus de contrats de commandite par la suite, puis non.
Ouais, mais toi,
leur valeur augmente aussi.
Moi, présentement, je suis dans le livre comptable de Jeff Molson.
Ouais.
Lui, sa plus grosse dépense dans l'année,
c'est ses joueurs.
C'est salaire. Puis là, à chaque fois qu'il y a un match de plus, ben lui, sa plus grosse dépense n'est plus là. Il fait que faire du profit. Puis c'est quoi une de ses plus grosses dépenses après salaire? C'est le voyagement. Jeff, là, parce que les gars, ils se ramassent pas à Dallas tout seul. C'est l'avion, puis c'est le gaz. Pis... Fait que, pendant
que
la saison, tu t'en vas dans l'Ouest, tu voyages beaucoup. En série, à moins que tu te rendes en finale, tu es toujours dans l'Est. Tu es toujours à côté de chez vous. Là. C'est bien rare que tu vas aller vraiment, 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 vraiment
c'est
loin.
C'est vrai que tu n'aimes pas Montréal. Non, c'est pas vrai.
Ouais. Vu que tu n'aimes pas, c'est peut-être un peu une exception. Là. Mais tu sais, tu as un petit peu moins de voyagement.
C'est vrai.
Fait que ça coûte moins cher. Fait que Jeff Molson, lui, il pense à ça. Son modèle d'affaires, c'est. Ton staff travaille le plus fort possible pour faire du bénévolat pendant deux mois, puis toi, ça te rapporte. Fait que c'est quand même un pas pire modèle d'affaires. Fait que plus le Canadien se rend loin, t'sais, on estime que dans les poches de Jeff Molson, là, un match de série, c'est entre 1,5 et 2 millions de
profits. C'est incroyable, hein?
Alors qu'un match de saison, ben, tu as plus de dépenses.
C'est débile pareil. Alex, autre sujet qui est super intéressant parce que ça touche énormément de gens, surtout en temps de crise du logement, entre autres. Moi, mes parents m'ont toujours... En fait, j'ai été élevée en les voyant se développer avec cette devise-là, le fait de bâtir ta relation sur une séparation, de toujours être capable de prévoir que d'un coup, que ça plante demain matin...
Tes parents, t'es de même?
Ils font encore. Oui, ils me font tellement rire. Là. Ils notent, ils ont un cahier, ils achètent, ils ont des grosses dépenses, mettons, ou des grosses affaires. Ils notent tout parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble.
Splitwise, ça peut faire aussi.
Oui, aujourd'hui, là, mais dans le temps, Splitwise n'était pas là. Qui tiennent un registre un peu de ça, puis où sont rendus financièrement pour être capables de bâtir leur relation sur leur séparation. C'est toujours ce utilisé comme phrase, puis ça me fait rire. Mais j'ai comme l'impression qu'on est dans une ère où c'est plus vrai que jamais, où on devrait, mais on n'est pas nécessairement capable.
Ben oui. Ça, en fait, ma réflexion est partie d'un article qu'il y avait en fin de semaine dans le Journal du Québec qui était titré « Endettée, cette mère de famille pourra-t-elle se séparer? »
C'est épouvantable.
Puis ça détaille le cas d'une dame qui avait deux enfants, le troisième qui n'était pas tout à fait prévu, fait que ça fait un poids sur les finances. Puis elle, le problème qu'elle a, c'est que elle veut se séparer, mais elle n'est pas capable d'un point de vue financier. Mm-hmm. Fait qu'on s'entend, c'est pas quelque chose de super le fun à vivre, là, particulièrement dans son contexte à elle. Là. Puis elle explique que, hey, historiquement, son conjoint faisait plus qu'elle, mais il s'est toujours obstiné pour payer tout 50-50 parce qu'il était deux, puis 100 divisé par 2, ça fait 50. Là. Fait que, bon, elle était dans une situation un petit peu particulière, mais ça m'a suscité la réflexion parce que, tu sais, on parle de maison, on parle de voyage, on parle d'un paquet d'affaires. Là. Puis la recommandation qu'on fait souvent aux gens, c'est pose-toi la question, hey, la maison ou le bail que je m'apprête à signer, ou est-ce que tu serais capable de le signer seul?
Mais la majorité des gens, la réponse, c'est non. Chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, il y a tellement de textos qui entrent pour dire « Hey, anonyme, c'est malheureux, mais moi, j'ose pas me séparer parce que je me retrouve dans la rue. » Ouais. On entend énormément parler de ça, des gens qui vont soit se mettre en couple ou se créer des colocations ou rester plus longtemps.
La crise du logement a amplifié encore plus ce phénomène-là. Il y a des gens qui voudraient quitter. T'sais, peut-être même qu'il y aurait théoriquement les moyens. Là, on voit la mère de famille endettée. Là, c'est vraiment une situation qui est extrêmement triste, mais qui ne trouve simplement pas de logement pour partir.
Moi, je connais des gens qui sont séparés puis se sont fait une chambre au troisième puis une chambre dans le sous-sol. Ouais. Fait qu'ils sont comme en colocation jusqu'à ce qu'un des deux rencontre quelqu'un d'autre puis qu'éventuellement, ils puissent quitter cette situation-là. C'est épouvantable quand tu y penses. Là.
C'est vraiment rough. Puis, ultimement, tu regardes, OK, deux personnes qui sont ensemble, qui parce que même, tu sais, les deux personnes ont une grosse disparité de revenus. Parce que moi, je l'ai vu dans le concret, ça. Fait que, mettons, la personne qui fait plus va payer, je sais pas moi, 75 % des dépenses, puis la personne qui en fait moins va payer 25 %. Bien, moi, j'ai vu des situations où, OK, la personne qui paye 25 % bien, devient dépendante du fait que quelqu'un paye 75. Fait qu'elle, justement, si elle veut s'en aller, si elle est plus confortable, si ça peut être une séparation normale, ça peut être peu importe quoi, là, c'est pas besoin d'être une situation, comment je peux dire ça,
catastrophique,
malsaine. C'est juste quelqu'un qui est tanné et qui veut s'en aller. Bien, elle s'est placée dans une situation où, tu sais, dans une optique d'équité, bien, faut pas non plus que celui qui bénéficie de ça ou qui va payer moins dépend du fait que quelqu'un paye pour lui. Fait que c'est là où
il va avoir une chute de train de vie. Il y a aussi, j'ai entendu régulièrement que les femmes avaient tendance un peu à se faire avoir, c'est-à-dire, tu parlais tantôt, monsieur ou madame fait plus d'argent, puis on est dans le 50-50, mais en plus, les dépenses qui prennent de la valeur, par exemple, je vais m'occuper, moi, de prendre des REER, puis je vais m'occuper de payer l'hypothèque, achète des meubles, puis des coussins, puis des tapis, puis des affaires, puis que finalement, la séparation, ce qui a vraiment une valeur appartenait finalement à monsieur s'ils n'étaient pas mariés, par exemple. Est-ce que les femmes seraient plus touchées que les hommes en cas de séparation? Moi, en tout cas, de l'expérience que je vois autour de moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que les femmes, peut-être, je sais pas, organisent moins leurs affaires en conséquence, pensent peut-être pas non plus à la séparation, je sais pas.
Bien, à la base, on a encore un problème de disparité de revenus. T'sais. Les hommes font encore en moyenne, je pense que c'est rendu 27 % ou entre 27 et 30 % plus qu'une femme en moyenne. Fait que naturellement, ça crée cette hiérarchie-là. Une manière de faire que j'ai vu récemment dans ma clientèle puis que j'aime beaucoup, c'était justement un cas où les deux, historiquement, un homme et une femme, faisaient à peu près le même montant. L'homme, ça s'est mis à mieux marcher ses affaires. Fait que là, il y a comme maintenant une grosse disparité de revenus entre les deux. La fille, elle veut pas, elle veut continuer de payer 50-50.
Moi, ça a été
justement pour éviter que je dépende de l'autre ou je dois de quoi à l'autre. Puis, mais ça fait pas de sens. C'est parce que là, elle, c'est clairement un plus gros pourcentage de son revenu, mettons, pour le loyer que son chum.
Fait qu'elle s'enrichit pas, dans le fond.
Bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ils ont fait un deal, puis ils se sont dit, garde, si pour ta sécurité et ton indépendance, tu veux payer 50, parfait, fais ça. Mais tout ce qui est les dépenses plus le fun, là. Fait que les voyages, les restos, tout ça, bien, cette personne, celle qui fait moins en
l'assume
beaucoup moins.
Fait que
moins.
Ça revient à peu près au même.
Exactement. Ça revient au même, mais si elle veut s'en aller demain matin, bien, est capable de le faire parce qu'elle dépend pas du salaire de l'autre pour vivre puis payer ses enfants.
Alex, est-ce que ça se fait de s'asseoir avec son planificateur financier justement avant de se mettre en commun, juste pour s'assurer la ceinture et les bretelles. Voici, je veux être capable de, s'il se passe quoi que ce soit, t'sais, prévoir le pire. Ça peut-tu être une manière de faire les choses?
Ça se fait, mais il y a très peu de gens qui veulent le faire parce que...
C'est l'équivalent de dire « ma relation ne marchera pas ».
C'est pas romantique.
Ben, c'est pourtant... qu'on vient mettre une démarche rationnelle dans quelque chose qui fondamentalement ne l'est pas.
Parce qu'on est émotif.
Fait que justement, tout ce qui est... attends, je vais te donner un exemple. J'ai un client l'autre fois qui s'est acheté un Sidou. Là. C'est une affaire de fou. Là.
Puis, fait des lumières, puis tout
dit,
ça.
Il me l'a dit après, puis... Parce qu'il m'en a parlé un peu avant, puis là, j'étais comme, tu veux-tu vraiment savoir ce que j'en pense ou non, là? Il dit, non, on s'en reparle. Puis là, trois mois après, hey, il m'a staché le Sidou. Fait que, tu sais, les gens, ils le savent, là. Quand ils font une décision, ils sont pas stupides, là. Il y a personne qui... C'est rare que quelqu'un fait un move financier un peu con, puis que j'y apprends que c'est con, puis il est comme,
on le sait.
Puis on est très émotif là-dessus parce qu'on se dit, on a juste une vie à vivre, hein, l'argent, ça revient.
Toutes les justifications sont bonnes.
On se convainc facilement.
Puis tu sais, c'est correct, là. T'sais, moi, mon but, c'est pas d'être rabat-joie là-dedans. Là. Ça m'a coûté genre 5 piastres, là, tantôt. Là. Un beau monster. J'en fais plein de décisions financières stupides. Je suis pas au-dessus de la mêlée. Je suis dans la mêlée là-dessus. C'est juste que je vois un paquet d'affaires où, justement, est-ce que tu peux le faire? T'sais, t'asseoir avec le planificateur financier et dire, OK, voici c'est quoi scénario 1, scénario 2, si ça marche, si ça marche pas. Mm. Bien sûr que tu peux le faire. Ça va faire plaisir de t'aider. Mais, justement, mettons qu'en termes de romance, là, c'est pas ce qu'il y a de plus gagnant. Là.
Mais à quel moment, mettons, tu le fais? C'est-tu...
Avant qu'il soit trop tard.
Ben, c'est-tu avant d'habiter ensemble? C'est-tu avant d'avoir des enfants? C'est-tu... Y a-tu comme un moment dans la timeline qui est peut-être à prioriser pour, justement, avoir ces discussions-là? Parce que c'est jamais des discussions le fun, là. Moi, ça fait pas longtemps que je suis avec mon amoureux, puis on s'entend-tu que on est comme dans cette période-là où on a le goût d'aller au resto tout le temps, puis de faire plein d'affaires, puis des activités, puis des ci, puis des ça. On n'aime pas s'asseoir puis prendre le temps de parler d'argent, là. Faut le faire.
Non, c'est ça. Ben, faut le faire. Puis je te dirais que le moment où la majorité des gens vont le faire, ce qui est un bon moment, c'est à partir du moment où tu as des intérêts financiers en commun, tu sais. Ça fait 3 semaines que tu es ensemble. Là. Tes seuls intérêts financiers en commun, c'est OK, toi, tu payes les billets de cinéma, moi, je paye le popcorn.
Ah, c'est y a pas, déjà, pas y a des fois, il y a des chicanes dès le début d'un couple. Tu sais que c'est un red flag. Une question pour toi, avec tes observations, est-ce que quand il y a une grande disparité de revenus, déjà, il y a une zone de risque plus grande qui aide des conflits, des problématiques, des inéquités? Est-ce qu'on serait mieux de se matcher avec du monde qui font le même salaire que nous autres?
Je sais pas, j'ai pas de réponse claire à ça, mais assurément que. Je vais te donner un exemple, puis celle-là, je ne peux pas tant l'identifier, mais je ne te dirais même pas c'est quoi la relation par rapport à... Mais c'est une personne qui a un chum qui fait énormément d'argent.
Okay.
Fait que ça donne un rythme de vie qui est inflationné au bout versus ce qu'était la réalité antérieure. Là, une fois que cette relation-là se termine, ton nouveau minimum psychologique de c'est quoi ton confort...
Pas mal plus haut, hein?
C'est plus ce que c'était il y a 2 ans, là. Ouais. C'est ce que c'était hier, là. Fait que c'est pour ça que, oui, il y a un risque à ça, là. Mais, comme je te dis, là, on le pense de manière rationnelle, alors que...
C'est pas comme ça que ça marche, là, dans la vraie vie, en début de couple, effectivement.
Mais assurément que, oui, il y a un risque particulièrement pour la personne qui est celle qui fait de l'argent. Il n'y a pas de risque pour elle, là, dans la mesure où, dans ce scénario-là, elle a le gros bout du bâton économique.
Oui, mais il y a des gens qui viennent frustrés de payer davantage, qui ont l'impression de faire abuser d'eux. Fait que j'ai l'impression que ça crée des petites zones de risque, les grandes disparités.
Bien, de là, le fait de l'aborder assez rapidement. Là. Moi, mon Dieu, qu'on dirait que je ne voudrais pas être la personne qui a l'air de profiter de quoi que ce soit. Mais un moment donné, il faut que tu sois logique aussi.
Mais le premier qui apporte l'idée, par exemple, d'un prenup, là.
Oui.
C'est illégal,
c'est pas évident,
ici.
Là. Oui, je comprends, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que cette discussion-là, c'est pas évident.
Mais tu vois,
apporter,
une chose
là.
Que je trouve super intéressante, c'est que les nouvelles affaires de patrimoine familial qui sont rentrées en compte, c'était en juin dernier, je pense, de mémoire.
Juin dernier, mais ça c'est juste dans le cas où il y a des enfants.
Oui, c'est ça. Si tu as des enfants, mais tu sais, ça fait en sorte que tu réfléchis, il me semble, 2 fois avant de t'embarquer, puis tu n'as pas le choix d'avoir ces réflexions-là au niveau financier.
Mais ça te prend quelqu'un qui est quand même. Qui est en même place que toi d'un point de vue mental. Là. Je vais te donner un exemple avec ma blonde. Là. Donc, nous, on est très romantique dans le quotidien, là, dans le sens où on se fait des attentions, on se fait des surprises, mais
tu
on n'est pas
des
irrationnel. Ouais. Non, ben, elle m'a vu tantôt sa caméra avec un monster, elle n'était pas contente. Mais on n'est pas irrationnel quant à la planète sur laquelle on vit. Dans la mesure où, hey, ça se peut-tu que dans 40 ans, on ne soit pas ensemble?
Ben, regarde.
Ça se peut très bien. Moi, je peux changer. Toi, tu peux changer. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas à matin, après-midi, à soir.
Je vais te lire un texto, puis tu vas voir, ça rentre exactement là-dedans. 24 ans que je suis avec ma conjointe. Je gagne 4 fois son salaire, entre autres parce qu'on a décidé que c'est moi qui allais pousser le volet carrière et qu'elle allait plus se concentrer sur les enfants. Tout est aux 2 noms. Moitié-moitié, même si je paye beaucoup plus, et c'est normal comme ça. Il dit, j'espère qu'on se séparera jamais, mais pas pour des raisons financières, tu sais.
Ouais. Ben, tu vois, c'est une bonne manière de le faire parce que ça a été fait en amont.
Oui.
T'sais, lui, là,
c'est conscient.
C'est sûr que si le deal, c'est hey, c'est écrit nulle part, mais inquiète-toi pas, on va prendre soin de toi. Ben, le jour où ça pète, il n'y a
marche
pas de preuve de ça nulle part. Là. Alors que justement, la maison, si initialement est aux 2 noms, ben, ça se peut là, qu'il s'obstine à un moment donné, mais crime, c'est notarié. Là. Fait que tout le monde est protégé.
Alex, j'ai envie qu'on termine en parlant de quelque chose qui est sorti dans les nouvelles dans les derniers jours. Puis je me souviens que quand Véro a fait la nouvelle, je me suis dit, il me semble que c'est pas la plus belle des nouvelles par rapport à Desjardins, puis sa fameuse carte de crédit conjointe. Puis là, je sais que Véro, tu as les détails parce que, il me semble, ils se sont ravisés. Là.
Ouais.
Mais où tu étais responsable, finalement, de la carte de crédit autant que l'autre si tu l'utilisais? Fait qu'on est ensemble, puis toi, Alex, puis je dépense comme une malade mentale, bien, t'es cop. Puis ça, tu vois, je trouve ça quand même épeurant.
Ben en fait, la base de la carte de crédit conjointe, c'était ça. Les deux étaient responsables.
Là,
ce qu'eux enlevaient, c'est que la caisse décidait qu'il y avait une personne des deux qui était la détentrice principale, puis l'autre était... Puis cette personne-là était l'unique responsable de la dette, la seule à se construire un crédit aussi, puis l'autre était un utilisateur, puis il n'avait pas nécessairement accès à toutes les informations parce que c'est le détenteur principal qui, lui, gérait le mm-hmm. tout. Fait que là, il y avait différentes inquiétudes là-dedans. Justement, qu'il y en a un des deux qui dépense plus. On a parlé d'abus, de contrôle de dépenses, etc., etc. Desjardins a été obligé de reculer là-dessus puis de faire les choses un peu différemment.
Oui. Bien, en gros, ils font beaucoup de changements de système. Là, ouais. J'ai l'impression que...
C'est à cause d'une compagnie qu'ils ont mis en place.
Oui. Ils avaient développé... Parce que l'offre de la carte de crédit conjointe, de la manière dont Desjardins le fait actuellement... Ça existe à peu près pas ailleurs sur le marché. T'sais, la majorité du marché est exactement là où ils voulaient s'en aller avec ces changements-là. Mais tu sais, c'est pas, on en a fait un gros cas, là, mais ça reste qu'il y a une seule institution financière au Québec qui offre ça de façon élargie, c'est Desjardins. Mm-hmm. Puis parmi les membres de Desjardins, c'est à peu près 10 % des gens qui sont dans cette offre-là. Là.
Puis qui avaient peut-être choisi de faire affaire avec Desjardins à cause que cette offre-là était disponible.
Mm. Absolument, mais ça reste que, je veux dire...
C'est marginal.
Moi, ma recommandation, c'est... Et pas de carte de crédit conjointe. Puis dans un monde idéal,
moi, je me ferais pas confiance.
De compte conjoint non plus. Là.
Hey, mais que... je voulais aller là, il y a un texto qui est entré. Ça
on
fait
peut-tu faire ça comme chronique à un moment donné?
Ça vaudrait vraiment la peine de l'éplucher. Nous, ça fait 15 ans en couple, deux enfants, et nos payes vont dans le compte conjoint. Et c'est ce compte qui paye les billes, l'hypothèque, char, Costco et compagnie. Même si nos salaires sont différents, c'est pas important. C'est tout considéré 50-50 dans la mesure où l'argent va en même place. Puis écoute, je vais te la poser rapidement, repartons pas pour 10 minutes, là. On se fera vraiment une chronique, là. Mais pourquoi, pour toi, c'est pas une bonne affaire? Parce que moi, c'est une question que mon chum m'a posée il y a pas longtemps. On veut-tu faire ça dans notre vie, avoir un compte conjoint? Puis j'étais comme « Ah! »
Il y a une différence entre un conjoint marié et un conjoint de fait. Au Québec, on est les rois de l'union de fait. Il y a personne qui se marie. Puis là, le conjoint de fait, d'un point de vue légal, là, moi, j'existe pas légalement pour ma blonde. Ma blonde n'existe pas légalement pour moi. Même chose, toi, Audrey, avec ton chum. Ouais. Fait que si tu n'as aucune protection légale de quelque manière que ce soit, c'est de la folie furieuse de mettre ses finances en commun. Si t'es marié, ça fait du sens. Vous avez une protection légale l'un pour l'autre. Fait que avoir un compte conjoint avec un conjoint de fait, c'est l'équivalent d'avoir un compte conjoint avec la personne que je croise sur la rue tantôt au hasard. Là.
Alors qu'avoir un compte qui existe où les deux transfèrent une portion pour payer des dépenses courantes, on n'est pas dans le même game que le compte conjoint où tout le monde met tout en commun.
Il y a une distinction à ce niveau-là. Fait que c'est pas vrai que tu peux remédier à ce problème-là. Tu peux faire une convention de vie commune, encore là, on vit sur la planète Terre, il n'y a personne qui fait ça. Fait que c'est pour ça que si tu n'as pas de protection légale qui existe,
fais pas ça.
Ben, de mettre tous tes actifs en commun. On parlait de risque tantôt, Antonine. Tu viens d'ouvrir la porte grande ouverte à un risque pas pire. Surtout que, soyons super rationnels, on est 4 personnes autour de la table présentement. Il y a un seul des 4 couples qui va durer jusqu'à la fin de notre vie. Là.
Ouch!
C'est statistique. Là.
C'est le fun, t'es positif, Alex.
c'est ça pareil.
Okay, Alex Leblon, planificateur financier.
Tu viens de détruire Audrey.
Bonne journée à toi aussi, mon ami. On s'en parle bientôt. Et on revient dans quelques instants. Lendemain de partiel, Carney majoritaire, on en parle avec Antonine. Gravel. Boulevard. Il y a des tâches qu'on n'aime pas vraiment entrevoir quand l'été, le printemps se pointe le bout du nez. Je sais pas vous autres, mais moi, tout ce qui touche au paysagement, là, ça me prend du bon monde. Ça me prend des gens à qui je peux avoir confiance, à qui je peux laisser la job parce que, un, j'ai pas la vision puis j'ai pas le talent. Puis deux, ben honnêtement, j'ai un petit côté lâche. Puis je pense que je suis loin d'être seule à l'avoir. Option paysagiste. Marquez ça à l'agenda, prenez-vous une note. Méchante belle gang. Option paysagiste, c'est le spécialiste en aménagement paysager à Québec et Lévis. Une équipe passionnée qui transforme votre terrain en véritable cours de rêve. C'est le fun quand tu peux prendre une bière chez vous puis que t'es content de ce que ça donne, que t'es fier de pouvoir montrer ça à tes voisins. Un service qui est 100 % clé en main, de la première idée jusqu'à la dernière pierre, terrassement, pavé, piscine, design. Il s'occupe littéralement de tout. Option paysagiste. Fait que ça fait 3 ans que tu regardes ton entrée, t'es plus capable. Ta cour arrière, 0 effet wow, t'aimerais ça que ça change. Tu sais pas par où commencer, ben justement, fais affaire avec eux. Ils ont une technologie 3D qui fait que tu peux visualiser ton projet avant même qu'il commence. Ça, c'est mon autre problème. Quand je disais que j'avais pas de vision, là, ben eux autres peuvent t'aider avec ça. Des ajustements faciles, une vision claire, du résultat final, 0 mauvaise surprise. Imagine arriver chez vous puis être fier à chaque fois. De la conception à la réalisation, c'est optionpaysagiste.ca.
Avec le prix de l'essence qui augmente, c'est le temps de